La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous et bienvenue sur la terre de Russie. Nous sommes encore au début du XXe siècle pour poursuivre notre petit périple au sein du 7e art en compagnie des femmes qui s'y sont investies en tant que scénaristes, réalisatrices, productrices. Ce sont des pionnières pour la plupart en la matière, car nous sommes dans les années 20 du XXe siècle. Certaines sont nées au XIXe siècle, comme celle que je vous ai présentée le numéro précédent. Il y avait Nina Agadzanova-Shutko, Alexandra Koklova, sans oublier les réalisatrices du cinéma d'animation, comme les sœurs Bromberg, Valentina et Zinaïda, Olga Kodoteva, Maria Bederskaya, Vera Tsekavotskaya et Alexandra Snezko-Blotskaya. Alors que je sois pardonnée si j'écorche les noms, mais je voulais quand même les citer pour montrer leur implication dans la construction de ce qui sera l'industrie du cinéma en Russie. Alors l'une d'elles est née en 1894. Elle, c'est une pionnière du cinéma documentaire et elle se nomme Esther Choub. Elle est issue d'une famille plutôt aisée, ce qui lui permet de suivre des études supérieures à Moscou. Elle y rencontrera des étudiants qui la familiariseront avec les mouvements révolutionnaires. Les nouveaux courants artistiques issus de ce que l'on nomme l'avant-garde la séduisent également à ces moments. Nous sommes donc peu après la Révolution russe, en 1918, où elle trouve l'occasion de se rapprocher du milieu du théâtre, un théâtre où sont défendues de nouvelles théories avant-gardistes, comme le constructivisme qui est né en Russie et qui s'apparente au futurisme en Italie, et où il s'agit de prôner une nouvelle culture, celle du peuple, de la modernité apportée bien souvent avec l'industrie, les nouvelles techniques et les machines. Et toutes les formes de création vont s'imprégner du constructivisme, que ce soit en architecture, en design, c'est-à-dire au travers des objets utilitaires, usuels du quotidien, de la maison, mais aussi en sculpture, en peinture. Et il s'agit donc de diffuser un esthétisme sobre et abordable par tous. Alors les formes seront simples, géométriques, liées à du fonctionnel et aussi liées à la révolution. Le principal étant de rejeter tout l'art antérieur décoratif dit bourgeois. Et donc Esther Choub aura l'occasion de travailler au théâtre où vont s'appliquer sans doute dans les décors, les mises en scène et les sujets des pièces, des valeurs dites populaires et modernes. Alors elle interviendra sur plusieurs pièces avec le dramaturge V. Volod Meyerhold et le poète Vladimir Mayakovsky. Et c'est en 1921 qu'elle débutera au cinéma auprès de réalisateurs comme Sergei Eisenstein, qui avait réalisé ce célèbre film que j'ai déjà évoqué au moins deux fois, si ce n'est trois, à la Voix des Arts et qui s'intitule « Le cuirassé Potemkin ». Alors pour répondre à une commande d'État pour le 10e anniversaire de la Révolution d'octobre 1917, elle fera des recherches sur l'histoire pré-révolutionnaire russe, si bien que celles-ci lui permettront de réaliser des documentaires, dont un remarqué intitulé « La chute de la dynastie des Romanov ». Or, je rappelle aussi un peu d'histoire, la famille Romanov, c'est-à-dire le tsar Nicolas II, son épouse et leurs enfants, quatre filles et un garçon, ont été assassinés, exécutés, le pouvoir renversé pour laisser place aux bolcheviks, c'est-à-dire au parti ouvrier social-démocrate, lequel a rassemblé aussi des paysans et ensuite l'ensemble du peuple, et tout ceci sous la direction de Lénine. Le but final aurait été de donner pouvoir au peuple. Mais les suites, bon, étaient plutôt douloureuses pour le peuple et son ensemble. Alors Esther Schupp, qui travaille sur la réalité, et notamment historique, en montrant différents aspects de la vie politique et familiale du tsar Nicolas II, de la vie des paysans et des ouvriers, a à cœur apparemment de respecter à la fois les matériaux à disposition qu'elle rassemble, mais aussi l'authenticité de l'histoire. Elle mettra ainsi également au point sa propre technique en utilisant des images d'archives qu'elle assemble, compile, après les avoir triées sur, paraît-il, plus de 60 000 mètres de pellicule. Alors vous imaginez le travail. Alors elle reconstitue des scènes historiques, et de tout ce qu'elle rassemble et reconstitue, elle fait le montage à sa manière, si bien qu'elle innove et sera ainsi considérée comme une pionnière dans ce genre de travail. Alors ce film fera partie d'une trilogie. Le second s'intitulera Le Grand Chemin, réalisé en 1927, et le troisième La Russie de Nicolas II et Tolstoï de 1928. Et c'est encore elle qui réalise le premier film documentaire sonore en 1932. Elle fait aussi le scénario et le montage. Et ce film, intitulé « Comme Sommol à la tête de l'électrification », concerne la construction d'une centrale hydroélectrique en Transcaucasie. Et elle témoigne ainsi de la réalité de terrain et mêle aux images les sons qu'elle perçoit, que ce soit les paroles, les mots, dans des langues différentes, hein, le russe, l'arménien, l'américain même, ou des bruits d'usine. Et elle poursuivra dans les années 40-50 son travail de cinéaste dans cette voie du documentaire. Alors elle projetait aussi de réaliser un documentaire sur le rôle des femmes dans l'histoire, mais ne pourra pas le tourner. Alors qu'en est la raison ? Peut-être celle qu'elle invoquait lorsqu'elle écrivait ses mémoires et qu'elle déplorait, à savoir qu'elle rencontrait des difficultés pour concrétiser ses projets en tant que théoricienne et réalisatrice de documentaires dans un milieu où le masculin ne lui a plus laissé de place par la suite. Et elle décédera relativement jeune, à 66 ans, en 1959. Alors pour notre pause musicale, j'ai pensé vous faire écouter une musique de film, celle qui m'est venue en mémoire lorsque je travaillais à rassembler de la documentation sur le cinéma russe. Cette musique est en lien avec le roman de l'écrivain russe Boris Pasternak, auteur que j'avais évoqué en même temps que je présentais sa grande amie poétesse Marina Tsvetaeva, qui durant ces époques troublées d'après la révolution russe et les guerres qui sévissaient alors, a fini tragiquement son existence. Le roman de Pasternak évoque cette période difficile de la révolution où naît une histoire d'amour qui sera évidemment contrariée entre une jeune russe et un médecin, le docteur Jivago, puisque c'est le titre et notamment celui du film réalisé en 1965 par David Lean, et dont la musique est tirée, et le docteur Jivago sera interprété par Omar Sharif et la jeune Lara par Julie Christie. Et je vous propose d'écouter un extrait de cette musique du film composé par Maurice Jarre et intitulé « La chanson de Lara ». Après cette jolie musique qui ravivera possiblement des souvenirs émus chez les plus sensibles d'entre nous qui avons lu ou vu le film, laissons approcher de nous une autre réalisatrice, celle-ci nommée Nuzsa Gogoberidze, une géorgienne qui naît en 1903 et décédera assez jeune en 66 à l'âge de 53 ans. Alors, elle arrive au cinéma avec un diplôme de philosophie en poche. Elle fait aussi partie des pionnières qui démarra au cinéma dans l'équipe de Sergei Eisenstein et Alexander Tchenko, qui épousera un militant du Parti communiste, Levan Gogoberidze, lequel sera exécuté en 1937 et elle-même exilée pendant 10 ans, paraît-il, à cause des activités du mari. Alors, les événements politiques, quoi qu'on en pense ou qu'on en dise, n'étaient pas les plus propices à l'épanouissement personnel, puisque nombre de créateurs ou d'intellectuels ont été éliminés, envoyés en exil au goulag, voire exécutés. En tout cas, à son retour, Nuzsa Gogoberidze délaissera ses activités cinématographiques pour travailler dans un institut de linguistique. Mais qu'a-t-elle réalisé ? Eh bien, c'est à l'âge de 25 ans, en 1928, qu'elle réalisera un premier documentaire intitulé « Mati », qui a été traduit par « Le Royaume », et ce, en collaboration avec Mikhaïl Kalatozov. Puis elle tournera « Bouba » en 1930, qui serait un film de propagande autour de l'arrivée du pouvoir soviétique dans un village de montagne. Son premier long métrage, tourné en 1934, s'intitule « Où je mouris », qui est traduit « De mauvaise humeur ». Bon, je n'en sais pas beaucoup plus sur ses productions. L'histoire tourne autour d'un marais que les autorités veulent assécher pour combattre la malaria et qui contrarierait « Où je mouris », la reine des grenouilles. Bon, voilà pour la trame de l'histoire. Par contre, bon, elle est, même si elle n'a pas continué sa vie de réalisatrice, elle est à l'origine d'une dynastie de réalisatrices. D'abord sa fille nommée Lana Gogoberidze, puis sa petite fille Salomé Alexis, qui elle restaurera les films de sa grand-mère, films qui seront redécouverts à partir des années 2000, ainsi que son livre intitulé Les Trains du Bonheur, qui sont des récits écrits lors de son exil. Alors, d'autres réalisatrices encore se sont fait remarquer, comme Margarita Barskaya, qui aurait réalisé un chef-d'œuvre intitulé Souliers percés, où elle fait tourner des enfants. Alors, selon mes lectures, ce film traite de la montée du nazisme en Allemagne, et apparemment, elle montre que les enfants sont les premières victimes du nazisme. Or, j'ai lu d'elle qu'elle était plutôt libre et spontanée dans sa manière de filmer. Alors, elle a réalisé d'autres films, notamment un de 72 minutes en noir et blanc, daté de 1936, intitulé « Père et fils », qui relate l'incommunicabilité entre un père, obnubilé par sa réussite professionnelle, et son fils qui finit par mal tourner. Or, paraît-il, ce film aurait été interdit, et il serait parvenu incomplet, possiblement partiellement détruit. Car en effet, le père, un héros de guerre, endosse le mauvais rôle du père défaillant, ce qui ne fut pas du goût des autorités en place. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en essayant de recouper les informations, sans néanmoins pouvoir entrer dans les détails pour apporter plus de précision. Alors, qui était-elle ? Déjà, elle est née en 1903, a vécu avec sa mère et ses deux sœurs, les parents étant séparés. Nous pouvons supposer qu'elle a pris contact avec le cinéma grâce aux acteurs qu'hébergeait sa mère. Quoi qu'il en soit, elle sort diplômée à 19 ans du studio d'art dramatique de l'État d'Azerbaïdjan pour devenir actrice. Et dans la foulée, elle épouse un réalisateur nommé Piotr Chardinin. Mais malgré sa carrière d'actrice qui s'affirme, elle semble plus attirée par la réalisation et ce qui se passe derrière la caméra que devant, si bien qu'elle suit ses inclinaisons et commence à réaliser pour et avec des enfants, puisqu'ils apparaîtront dans ses films. Et elle réalise son premier film en 1930, intitulé « Qui est le plus important ? Qu'est-ce qui est le plus nécessaire ?» Alors, il s'agit apparemment d'un film pédagogique. Puis viendront ceux que j'ai mentionnés, « Souliers percés » ou « Bottes déchirées », selon les traductions, réalisées en 1933, et « Père et fils » de 1937. Alors, à la suite de « Père et fils », apparemment mal perçu par les autorités, Margarita Barskaya sera envoyée au goulag, formule simple et expéditive, puisqu'elle décédera peu de temps après, en 1938, et certains disent qu'elle s'est suicidée. En tout cas, elle est morte à seulement 35 ans. Alors, nous allons faire passer ces tristes histoires avec un peu de musique. C'est aussi pour vous présenter une compositrice russe née en 1929 et, selon ce que j'ai lu, une figure significative de la musique populaire soviétique qui se nomme Alexandra Pakhmutova. Elle commencera toute petite par jouer du piano pour se diriger ensuite vers la composition. Elle s'initiera à la composition auprès d'un compositeur russe nommé Vissarion Chebaline. Son registre à elle semble assez large. Vous trouvez de la musique pour orchestre symphonique, musique pour ballet, musique pour enfants, des chansons, également de la musique de film. Mais pour l'heure, nous allons écouter ce que j'ai trouvé, évidemment une composition d'Alexandra Pakhmutova, une mélodie sans doute dédiée à la Russie et composée en 1952. Alors, des réalisatrices russes, j'en ai trouvé encore quelques-unes. Pour certaines, j'ai réussi à reconstituer leur biographie et leur filmographie. Pour d'autres, ce fut plus difficile de trouver des informations même sur leurs films, comme pour Tatiana Loukachevitch, dont j'ai pu noter qu'elle avait deux films à son actif, l'un d'une durée de 70 minutes en noir et blanc intitulé Gavroche de 1937, qui est une adaptation des Misérables de Victor Hugo à la sauce russe, si je puis dire, et qui serait un peu fantaisiste par rapport à la trame du roman. Et l'autre s'intitule L'enfant trouvé de 1939, qui relate l'histoire d'une petite fille perdue qui déambule dans les rues de Moscou et qui est recherchée assidûment par sa famille. Alors ces films ont quand même battu des records d'entrées à leur époque. Je crois 17 millions d'entrées pour L'enfant trouvé, qui est un film de 68 minutes en noir et blanc. Et c'est le cas aussi de Nadejda Kotcheverova, de battre des records d'entrée avec ses films. Sa spécialité, c'est de réaliser des films inspirés de contes de fées, comme celui-ci intitulé Cendrillon, et réalisé en 1947, qui lui aurait fait 18 millions d'entrées, moins qu'avec son film intitulé Arika de 1949, qui lui a battu tous les records avec 23 millions d'entrées. Alors, elle réalisera encore des contes au cours du temps et en tout un peu moins d'une vingtaine de films. Mais je pense que je reviendrai sur Nadejda Kotcherova pour voir si je peux vous en apprendre un peu plus. Quant à Tatiana Berezantseva, j'ai également noté qu'elle était une réalisatrice russe, qu'elle était née en 1912 et décédée en 1995. Et concernant sa filmographie, j'ai noté un film intitulé Une nuit d'angoisse, réalisé en 1958, qui apparemment n'a pas compté comme l'une des plus grandes œuvres tournées en Union soviétique à cette époque. Bon, voilà globalement ce que je peux dire encore sur ces réalisatrices, nombreuses quand même, et remarquées en Russie ce début de XXe siècle. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, enfin du moins j'espère qu'elle sera bonne, c'est que nous resterons encore en Russie l'émission prochaine, en compagnie toujours des créatrices au cinéma. À bientôt donc et merci de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.